Vu l'état actuel de l'Église, chers frères et sœurs, nous n'avons aucune difficulté à nous sentir proches de cette assemblée d'aveugles et de boiteux, de nous représenter cette assemblée qui est accompagnée de femmes enceintes et de jeunes mères pour aider sans doute ces aveugles et ces boiteux. Cette assemblée que décrivait le prophète Jérémie dans la première lecture. C'est le panorama général de ce dimanche, une assemblée de pauvres qui avancent dans les pleurs et les supplications, mais dont aucun de ses membres ne semble réellement en mesure de conduire l'assemblée, de trouver son chemin. Et c'est sûr que cette vision est assez lointaine de l'image qu'on peut avoir d'une église triomphante, qui se dirige au son des trompettes vers le roi céleste au trône de sa puissance. Et pourtant, c'est bien l'Église que préfigure le prophète Jérémie lorsqu'il parle de cette assemblée de pauvres et de boiteux, dans une vision, somme toute, assez réaliste de notre pèlerinage terrestre. C'est une pauvre assemblée, mais qui est conduite par le Seigneur vers les cours d'eau et qui est conduite dans un droit chemin. C'est ce climat paradoxal que je voudrais aborder aujourd'hui dans cette homélie, qui est que l'Église a toujours besoin de conversion, comme cette assemblée de pauvres, mais c'est aussi l'Église qui nous convertit et qui nous sanctifie. Ces deux aspects qui peuvent sembler antinomiques et qui pourtant sont la réalité de l'Église. C'est la réalité de l'Église d'être cette assemblée qui demande sa conversion et qui la reçoit toujours parce que le Seigneur la conduit. Je commence par un premier point pour voir quelle est la proximité entre Bartimée et l'Église. Si nous revenons à l'Évangile, chers frères et sœurs, nous voyons qu'il se situe à Jéricho. Jéricho, c'est une ville au nord-est de Jérusalem. Et on peut dire qu'il n'y a rien de plus déprimant que Jéricho, puisque c'est ultra aride et vide. Aujourd'hui, quand on y va, on voit que c'est pauvre. Et puis, il y a ce climat de corruption aussi, puisque à l'entrée, on voit les villas de dignitaires palestiniens construites avec l'aide alimentaire détournée. C'est pas un lieu très, très brillant, et vous savez que c'est le lieu le plus bas de la terre, comme il est souvent rappelé. Et Bartimée, dans cette ville de Jéricho, cumule les misères. Il est aveugle, il est mendiant, il n'a rien d'autre que son manteau, et en plus il est alourdi par son manteau, et enfin il est au bord du chemin, et il est au bord du chemin dans tous les sens du terme. Quel serait alors le critère qui nous indiquerait une ressemblance entre Bartimée et l'Église? Ce critère, c'est que Bartimée est déjà tourné, il est déjà tout entier tendu vers le Seigneur. Et lorsqu'il entend parler de Jésus de Nazareth, lui corrige directement et l'appelle non pas Jésus de Nazareth, mais il l'appelle fils de David. C'est-à-dire qu'il reconnaît déjà que Jésus est le Messie attendu par Israël et pas simplement un sage ou une célébrité de Nazareth. Immédiatement, on voit que Bartimée a une relation ajustée avec le Seigneur. Et ça, on peut le voir parce que il s'exclame « Rabouni, que je retrouve la vue !» Et « Rabouni », c'est un terme assez rare dans l'Évangile. L'autre personnage dans les Évangiles qui dit « Rabouni », c'est Marie-Madeleine le matin de la résurrection, lorsque Jésus l'appelle et qu'enfin elle reconnaît Jésus alors qu'elle le prenait pour le jardinier. Et vous savez, dans « Rabouni », on retrouve « Rabbi » et c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous comme relation parce que il y a à la fois cette dimension respectueuse vis-à-vis de Jésus qui est notre Maître et Seigneur et aussi ce diminutif très chaleureux et qui nous montre que le Seigneur veut être notre ami, il veut une relation d'amitié, il veut une relation qui soit vraiment proche, qui soit simple, que nous puissions exprimer nos joies et nos peines au Seigneur. Et on voit aussi un autre indice qui montre que Bartimée est vraiment pauvre. c'est qu'il jette son manteau. Il accepte d'avancer sans entrave, de rejeter son bien le plus précieux pour aller à la rencontre du Seigneur, parce qu'il a compris que son bien le plus précieux, c'était d'être proche du Seigneur. Et si vous vous souvenez, chers frères et sœurs, il y a quelques semaines, on était resté sur un échec à l'Évangile. Cet échec, c'était le jeune homme riche qui voulait suivre le Seigneur, mais lorsque Jésus lui avait demandé de vendre tous ses biens, il était reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et il n'avait pas réussi à puiser en lui suffisamment de force ou d'humilité pour se laisser rejoindre totalement par le Seigneur. C'est ce que nous pouvons retenir, frères et sœurs, c'est que l'Église est comme Bartimée, aveugle et même crasseuse, mais elle est composée de pécheurs qui sont appelés par Dieu, et c'est là que réside un critère de distinction fondamentale d'appartenance à l'Église. C'est toujours difficile de dire qui appartient à l'Église et qui n'y appartient pas. Mais on peut retenir quand même que si nous n'avons pas cette pauvreté qui nous fait être tournés vers le Seigneur, est-ce que nous pouvons vraiment dire que nous appartenons à l'Église ? Le Seigneur est seul juge. Mais vous savez que il y a plusieurs manières d'appartenir à l'Église, et c'est ce que disait le cardinal de Lubac, qui disait qu'il y avait plusieurs degrés d'incorporation à l'Église, et ça n'est pas la même chose de se séparer de l'Église par la gravité de ses péchés, ou alors d'être un pécheur qui humblement se tourne vers le Seigneur. Ça n'est pas la même chose. Et on pourrait aussi ajouter et souligner que l'Église est composée de saints et de pécheurs, mais tout le monde n'est pas ex aequo, parce que l'Église existe sans les pécheurs, c'est ce que nous verrons au ciel, mais elle n'existe pas sans les saints. Nous savons que nous ne sommes pas encore saints, mais nous pouvons prendre cette décision d'être résolument tournés vers le Seigneur et de devenir des pécheurs pardonnés et non pas des pécheurs séparés. Je termine avec un second point qui est une grande insistance aussi de ce dimanche, c'est qu'il n'y a pas que Bartimée qui représente l'Église, mais il y a aussi cette foule nombreuse qui accompagne Jésus. Apparemment, il n'y a pas que des enfants de cœur dans cette foule, puisque certains rabrouent assez violemment Bartimée lorsqu'il appelle le Seigneur. Mais cette foule, elle est dite dans la traduction liturgique une foule nombreuse, mais ce n'est pas tout à fait la même chose dans d'autres traductions. On fait un petit point de vocabulaire grec. En l'occurrence, cette foule, c'est la foule suffisante ou la foule digne. Digne, exactement avec le même terme que nous, pendant la messe, lorsque nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Qu'est-ce que ça nous indique que cette foule est digne ? Ça nous indique que la foule représente l'Église qui est toujours digne, c'est-à-dire qui est toujours en mesure, qui est toujours en capacité de nous donner les moyens du salut qu'elle a reçu par le Christ, qu'elle continue de recevoir par le Christ, tout l'enseignement qui nous a été transmis par les apôtres et les richesses des saints, etc. Nous pouvons avoir cette certitude, et c'est bien la seule prière que nous sommes sûrs de voir exaucée, c'est lorsque nous demandons notre conversion, et particulièrement lorsque nous cherchons notre conversion en utilisant les moyens que nous donne l'Église, c'est-à-dire les sacrements, l'enseignement, la fraternité, le service des pauvres. Je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux, mais nous pouvons avoir cette assurance que l'Église ne manque jamais de nous donner les moyens de conversion. Je crois que c'est vraiment ce que nous pouvons retenir de ce dimanche, de ces lectures, c'est que lorsque le prophète Jérémie nous décrit comme une assemblée de pauvres, d'aveugles et de boiteux, c'est vraiment ce que nous sommes et c'est ce que nous devons désirer être, pas pour être, infirmes, mais pour désirer que nos pauvretés soient vraiment tournées vers le Seigneur, et que nous soyons conduits par le Seigneur près des cours d'eau et sur un droit chemin. La conversion des pécheurs, notre propre conversion, c'est ce que nous devons toujours demander. Cela était peut-être ridiculisé à l'époque, mais lorsque la Première Guerre mondiale faisait rage, Notre-Dame de Fatima a demandé d'abord à ce qu'on prie pour la conversion des pécheurs. Ça n'était pas un hasard, c'est parce que nous savons que c'est la supplication centrale de recevoir la lumière. Et c'est vraiment le double sens de cette guérison de Bartimée. Il a reçu la vue physique, mais il a reçu aussi la lumière, c'est-à-dire la vue intérieure, cette capacité à connaître le Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas capables, au fond de notre conscience, de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, si nous ne sommes pas capables d'aller prendre des forces auprès du Seigneur, ni de nous conduire sur les justes chemins, nous voyons bien que ça ne sert à rien d'obtenir des guérisons. Il n'y a que la conversion des pécheurs qui peut résoudre les problèmes et les souffrances de notre monde. Jésus ne nous sauve pas sans nous, mais il nous sauve avec nous si nous le voulons bien. Amen.